Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Aujourd'hui, Nick de Cheese.
Like a poisoning of the gills, a disease of breath and soul, it seizes. Nothing, the end. An imperception, a fluttering, a susurrus at first, then slow devouring, emptiness made all.
Confession d'un chasseur d'opium. Ce court récit est paru initialement en 2000 dans Vanity Fair en forme d'hommage à Thomas de Quincey. Son charme et son point de départ, son dégoût du monde contemporain, ses fantasmes des fumeries d'opium et l'histoire de cette drogue depuis l'Antiquité. Quatrième de couve de ces confessions d'un chasseur d'opium, on peut lire « Vous comprenez, il fallait vraiment que j'aille en enfer, j'avais pour ainsi dire le mal du pays. » Mais comme je l'ai dit, il y avait un problème ou deux. Maintenant que ce diabétique respectueux des lois s'était mis en règle avec Dieu, il fallait affronter le second problème. Il était devenu presque impossible de se procurer de l'opium, où que ce soit, en Amérique comme en Europe. Pendant 2 ans, avec l'aide de nombreuses personnes, dont certaines n'étaient pas sans entretenir une certaine familiarité avec les strates les moins ragoûtantes de la société, j'ai cherché. À New York, rien. À Paris, rien. À Londres, rien. À Rome, rien. À Berlin, rien. Finalement, un trafiquant d'art turc me fournit quelque chose qui était censé être de l'opium.
Thank you.
Cette chose avait l'apparence et le goût de toutes les autres substances qui s'achetaient et se vendaient comme étant de l'opium. Des années auparavant, quand l'opium n'était pas si rare, Dieu seul sait ce que cette substance était en réalité. Une seule friture quelconque contenant peut-être des traces d'opium ou, plus vraisemblablement, un réseau toxique de l'opium. Mais ce n'était pas de l'opium et, comme je devais plus tard le découvrir, cela n'y ressemblait ni de près ni de loin. De toute façon, même si cela avait été de l'opium, personne n'avait à sa disposition une véritable pipe à opium. Et personne ne savait comment s'en servir. On pouvait, bien sûr, manger cette substance, se la fourrer dans le cul, la fumer dans une pipe à hashish, mais en dehors du fait qu'elle rendait malade, son seul effet était entièrement le fruit de l'autosuggestion. Quant aux fumeries d'opium, ce n'est même pas la peine d'en parler. L'Amérique avait été partie prenante du commerce de l'opium depuis le début du 19e siècle, lorsque Jacob John Astor, entre autres, fit fortune en acheminant en contrebande des tonnes d'opium turc à Canton. Sous forme de laudanum, l'opium n'était pas moins courant aux États-Unis qu'en Angleterre. Mais ce furent les immigrés chinois venus construire les voies ferrées et travailler dans les mines qui apportèrent le paradis de la pipe en Amérique. Dès les années 1870, l'expression « fumerie d'opium » venait à peine de faire son apparition dans la langue anglaise. La ville de San Francisco interdit de fumer l'opium sur son territoire. Pendant plus de 30 ans, à mesure que la population chinoise se répandait en Amérique, des fumeries d'opium s'ouvraient, parallèlement au renforcement des lois anti-opium, dans toutes les grandes villes. C'était un secret de Polichinelle. L'indignation publique se transforma en hystérie lorsqu'il apparut que la clientèle de ces fumeries ne se limitait plus exclusivement aux Chinois, dont le salut de l'âme était sans importance sur l'échelle des valeurs américaines. Les journaux regorgeaient de récits choquants dont les lecteurs affolaient, des visites par procuration souvent enjolivées de façon fantaisiste, voire entièrement issues de l'imagination des auteurs, dans ces repères du vice où les gangsters, le demi-monde, les vampires sordides de Broadway et de la haute société, bref, les gens dans le vent, se donnaient rendez-vous pour éprouver les langueurs de l'irréparable. Le qualificatif « hype », être dans le vent, était entré dans le langage courant lorsqu'il fut imprimé pour la première fois en 1904, à peu près au même moment où, par une curieuse coïncidence, la première chanson consacrée à l'opium, Willy the Whipper, Willy le pleurnichard, semble avoir pris naissance. Ce terme, qui signifie généralement déhanché, vient peut-être de la position traditionnelle, immémoriale, à demi couchée des fumeurs d'opium, et pourrait bien avoir servi à l'origine de signe de connivence, permettant aux gens qui étaient au parfum de la grande fumée, bienfaisante, de se reconnaître entre eux. Malgré les rafles, les saisies et les arrestations, les fumeries d'opium étaient toujours en activité à New York comme ailleurs. Au cours des premières décennies du XXe siècle, le trafic de drogue passa aux mains de la coalition judéo-chrétienne, qui avait pris le contrôle du crime. Les noms juifs et italiens apparurent dès lors presque aussi souvent que les noms chinois dans les listes de gens arrêtés pour avoir acheminé et vendu de l'opium et pour avoir dirigé des fumeries. Lorsque les vieux fumeurs d'opium chinois s'éteignirent, les nouveaux seigneurs de la drogue exploitèrent activement le marché des dérivés de l'opium. D'abord la morphine, puis l'héroïne, deux inventions du 19e siècle qui permettaient de réaliser des bénéfices bien plus importants que l'opium lui-même. Ces drogues offraient l'oubli, mais ne donnaient pas accès à un monde éthéré. Elles représentaient un saut dans le vide et non une lente dérive vers la bénédiction de la sérénité. Les jeunes gens, ignorant de plus en plus la fumée d'opium à mesure que ce dernier se raréfiait, ou ne la connaissant que sous la forme toujours plus impure commercialisée par le consortium judéo-chrétien, et peut-être de plus en plus insensible à la perspective de la sérénité elle-même et à l'attrait de toute dérive un peu lente, se laissaient facilement conquérir par l'oubli et par la sensation de montée fulgurante. Il ne voulait ni lente cérémonie, ni rituel. Il voulait que ça tape. Tandis que la culture et le commerce de l'opium se développaient d'une façon inouïe, l'art de fumer l'opium disparaissait. Sa fin était un ouros-boros. La demande baissait sans que rien ne vienne raviver ou se tenir cette demande en diminution. Puisque ceux qui étaient en mesure de la satisfaire pouvaient gagner bien plus d'argent en transformant l'opium en héroïne. La fleur de joie, écrasée par la fleur de misère, pouvait rapporter 10 sacs d'or, 10 sacs d'accoutumance, et ainsi de suite, exponentiellement.
we used to go. I wish that I'd sail the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that on a sailor's suit and cap. It's my life, because a maniac to my vein leads to a sinner in my head, and then I'm better off than dead.
En 2001, Nick Tuchis effectuait une lecture bien plus éloquente que la mienne au Centre Pompidou.
Dead of its ascendance, yellow mist, all that has been conquered rises, and all that has been won is lost, and the power is gone, and the might is gone, and the right is gone. And the dream is gone, and the chambered shell is broken. And the breeze dies, and the scent of the spirit is the scent of Carrion. And the rhythm and meter, sweet God's fairest rhyme, the wave and tide of self go down. Ad nihil
Who? mille et mille années.
Oh.
Si tout était compté.
Oh.
Longues heures de la nuit.
Oh.
Aux perles de rosée.
Culture, l'émission Mauvais Genre se penche sur la dernière parution de Nick Toshiz. Réserve ta dernière danse pour Satan. Encore un titre assez éloquent et vous allez pouvoir écouter une critique enthousiaste.
Qu'on peut appeler une plaquette, c'est né avec un article de Vanity Fair. Pour moi, c'est un testament de Nick Toshiz, à qui l'on doit 4 romans policiers prodigieux, plusieurs livres sur la musique absolument extraordinaires.
Dans une biographie de Jerry Lewis.
Et on sent que c'est un article prolongé où il met tout ce qu'il a à mettre, c'est-à-dire qu'en fait il raconte tout simplement que en gros, cette musique qui va s'appeler rock'n'roll, d'ailleurs il a des mots très durs pour certains groupes, quand il parle par exemple des Beatles, il dit c'est, au départ c'était un groupe de filles avec des, on va dire avec des couilles,
voilà, c'est ce qu'il dit.
Qui après a appris à faire de la musique. Quand il parle de Elvis Presley, il dit bon, il a mis du temps, lui il s'arrête juste avant et il parle d'une période où en gros on est dans le banditisme, mais le banditisme dans le sens qu'on est, on est en dehors des lois. On se vend des chansons pour rien, on les rachète pour rien, on se monte les uns sur les autres, mais comme il dit, avec une certaine correction. On est entre bandits, pas bandits d'honneur. Un type à qui on dit « vous avez volé une chanson », il dit « écoutez, on n'a jamais volé d'argent à personne, on avait tous des choses à vendre, on les achetait. Moi, une fois, j'en ai acheté une pour rien à X et j'en ai vendu une que j'avais très très bien, et après à un autre pour presque rien. » Et il y a des moments totalement extraordinaires. D'abord parce qu'il y a des énumérations hallucinantes et qui sont presque musicales sur les maisons de disques, qui a changé de label et tout. Puis tout d'un coup, au détour d'une phrase, vous allez lire, à la fin d'une longue citation qui est presque une discographie, des pièces qui tintent à l'intérieur du grand jukebox incandescent bakélite. Une avalanche de pièces s'abattant dans la rue depuis une fenêtre au 9e étage. Oui, c'était une grande époque. Car il voit cette époque de bandits un peu comme on voyait le milieu de la boxe à cette même époque, comme un milieu extraordinairement vivant, où il se passait des choses extraordinaires. Il y a un moment extraordinaire aussi où un type de chez Warner veut récupérer Van Morrison, qui va devenir le chanteur qu'on sait.
Oui.
Alors, il sait qu'il va rencontrer des gens qui, comme dit Peter Toshiz, qui sont du côté obscur. Donc, il donne rendez-vous du côté obscur et il a un chèque à donner. Le type doit lui donner le contrat de Van Morrison. Alors, il dit « vous avez le chèque ?» Il dit « oui ». Il dit « vous avez le contrat ?» « Oui, il est signé, oui ». Et à ce moment-là, ils échangent le chèque et le contrat. Et il se dit, ouais, mais dès que je suis sorti d'ici, je vais prendre un coup de barre de fer. Et il saute par la fenêtre du 3e étage et il file mettre le contrat au coffre chez Warner. Donc on est dans un monde ahurissant, mais avec une morale autre qui fait d'ailleurs penser à la morale des bandits qu'on a connus, nous. Mais si je prends une autre citation, je peux m'en empêcher. Il interview Evey, ce qui n'est pas un personnage très recommandable des fois. Et il dit, à qui on dit qu'il a volé beaucoup de gens. Les gens racontent comment on les a volés. Personne ne les a volés. Je n'ai jamais volé personne, pas plus qu'un grand nombre de gens qu'on a accusés. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, tout le monde proposait ce qu'il avait à vendre. Donc c'est un monde à la morale simple, et lui dit à un moment, au moins ce monde-là, je le comprenais. Je comprenais que dans mon quartier, à cause des bandits, à cause des gens bien, mais du fait qu'on était une petite famille, eh bien la vieille dame qui dormait au premier étage était heureuse. Elle était plus protégée aujourd'hui que dans ce monde global. C'était peut-être un monde de gangsters, il avait ses règles, mais dans nos petits villages, on continuait à vivre comme avant, comme ailleurs. Et je trouve ce petit livre... En plus, maintenant qu'on a Internet, on peut écouter les chansons, vérifier si un Hound Dog vient bien d'une autre chanson précédente, vient d'une chanson précédente. On est à la fois dans un cours de musicologie et puis sur un passé révolu pas si lointain, ce monde où les immigrants étaient encore entre eux et étaient en train d'un côté de bâtir la bande dessinée, d'autre côté de bâtir la musique avec des moyens de fortune. Et là, encore une fois, il n'y avait pas de major. Elles arrivent avec Warner et les autres, mais c'est un monde qui échappe à tout, puisqu'au départ, le premier disque rock qui veut le faire chanter, c'est à Frank Sinatra. Le deuxième, c'est à Tony Bennett, échec absolu. Donc, les grands n'ont pas encore compris ce que ça représente. Un jour, ils vont le comprendre, et pour lui, c'est le glas du rock. Et des fois, je me dis que c'est le glas de la révolte du rock. Bien sûr que le rock existe après, bien sûr que le rock continue. Mais c'est le moment magique et il le raconte mieux que personne parce qu'on a l'impression que lui-même s'est arrêté à ce moment-là et qu'est-ce qu'il ressasse maintenant alors qu'avant il le racontait, c'est que c'était « the magic moment » comme disaient les Drifters dans le Brill Building.
Wonder where she is bound. I broke her heart and made her cry. Now I'm alone, so all alone. What can I do? What can I do?
There goes my baby.
Whoa, whoa, whoa.
There goes my baby.
Yeah.
Pour mettre pas les...